j'ai été réveillé par le bruit. Le fait qu'il ait ouvert la porte avec cette violence-là, le son est passé par les pieds, par la plante des pieds. Mais concrètement, c'est pas du tout une image ou un symbole, c'est concrètement. Voilà, j'ai l'impression qu'on ouvrait le foie, les poumons, les machins, hop, et que le corps se réveille et que c'est ce corps-là qui est là. Et cette violence-là, c'est là où j'ai compris que c'était une prison et que c'était pas du tout une chambre d'accueil, d'hôte. Ou... C'était pas papa-maman qui était là.
Tout est oppressant. L'impression que, j'ai pas l'écume des jours, la pièce qui se referme sur toi.
C'est comme si tu te réveilles et que tu te souviens que t'es arrivé, que tu te faisais chier.
La prison, c'est quand même un système parfait. C'est un système parfait pour broyer les gens, pour gérer la misère sociale, pour faire retourner la masse à l'intérieur, pour non pas réinsérer, mais recycler le prisonnier une fois de plus en prisonnier.
Toujours l'odeur. Moi, c'est l'odeur. À chaque fois, c'est l'odeur. Et aussi cette misère silencieuse, une misère insidieuse de personnes qui se taisent, qui subissent ou qui hurlent.
Il y a des cafots, c'est vraiment, vous auriez du mal à mettre votre chien dedans.
Plus le temps passe et plus les gens, on est dans les oubliettes, quoi. Les amis, les proches, c'est pareil, hein.
J'ai peur de eux, ce qu'ils sont capables de faire.
Mais t'as pas idée de ce que les poteaux là en ce moment ils vivent au quartier d'isolement, est-ce qu'ils vivent dans les centrales et comment ils tournent et comment ils tournent en rond et comment le système il est fait pour les tuer quoi.
Passe-Muraille relaye les paroles, les expériences, les revendications et les combats des prisonnières, des prisonniers et de leurs proches.
On peut dire ce qui se passe en prison vraiment parce que il faut savoir que c'est caché, c'est censuré.
Qu'il y a entre ceux qui sont à l'extérieur qui ne savent pas comment c'est à l'intérieur et ceux qui sont à l'intérieur qui ne savent pas comment ça se passe à l'extérieur. Et donc il y a un lien à faire.
Il n'est jamais trop tard pour essayer de résister et commencer par écrire. On compte sur vous, on ne peut rien faire sans vous. Rien faire sans vous.
Ouais. Vous êtes sur le 88.4 à l'écoute de l'émission Passe-Muraille, comme tous les quatrièmes lundis du mois à 20h. Et voilà, je vais rappeler vite fait le numéro de l'émission où vous pouvez nous laisser des messages pour contribuer, voilà, si vous avez des choses à dire sur la prison. C'est 07 58 74 63 01. 07 58 74 63 01. Et d'avance, eh ben, on remercie les personnes qui nous auront laissé des messages et ceux déjà qui nous en ont laissé et qu'on écoutera le mois prochain. Et voilà, vous pouvez aussi nous écrire, n'hésitez surtout pas, à émission Passe-Muraille chez Radio Galère, 41 rue Jobin, 13003 Marseille, ou nous contacter sur internet à l'adresse passe-muraille@rise.net. Et nouveauté, on a un blog maintenant où vous pouvez réécouter les émissions qui sont podcastés avec les montages qui sont présentés, etc. Et du coup, l'adresse du blog, c'est passemuraille.noblog.org. Et du coup, alors pour cette émission, on va parler, le gros de l'émission, ça va être autour de l'histoire de Claudio Lavazza et surtout de son point de vue sur ses années de lutte à l'intérieur des prisons et aussi à l'extérieur avant. Et voilà, avant, on va faire un petit peu d'actualité, et puis on terminera l'émission par des chroniques autour de livres, et notamment de livres pour enfants. Et du coup, on va d'abord commencer par donner des nouvelles des personnes dont on a parlé aux dernières émissions. Et notamment pour commencer, on vous avait appelé à la dernière émission, en fin d'émission, à venir à un rassemblement à l'occasion d'un procès, qui était le procès suite en fait à l'incendie du CRA du Canet en 2011, et voilà, qui donc avait des répercussions judiciaires jusqu'à maintenant pour encore une personne, c'est ça. Et du coup, voilà, c'en est où?
Du coup, il n'y a pas énormément de... il y a un peu de nouvelles. Déjà, on remercie un peu les personnes qui sont venues au rassemblement. C'était le 18 janvier. Du coup, ça a été... c'était une audience fermée, pas publique. Et du coup, pour la dernière personne qui était encore dans cette affaire, donc il y avait un résidu de peine à faire qui a été, changé. Et du coup, là, il y a 4 ou 5 mois de bracelet électronique à faire. Et voilà. Donc on souhaite du courage à cette personne-là. Et en gros, voilà. C'est ça.
Est-ce qu'on peut rappeler qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un bracelet électronique ?
Eh bien, ça veut dire que du coup, on se rend à la prison pour se faire mettre le bracelet. Et il y a aussi du personnel de l'administration, je ne sais plus si c'est des keufs ou des matons, mais en tout cas qui viennent chez vous pour installer le reste du dispositif, c'est-à-dire un dispositif qui est branché sur le téléphone. Et donc avec ce bracelet au poignet en permanence, en gros ils savent où vous êtes. Alors ça dépend des modèles de bracelet, il y en a avec GPS, notamment pour les monstres qui ont des longues peines, là, qui sont condamnés pour des histoires... qui font la une des journaux, c'est souvent ce dispositif GPS. Sinon, le dispositif plus classique, c'est qu'en fait, à partir du moment où on est à son domicile, le dispositif repère notre présence, et du coup, on est obligé de rester à domicile selon les horaires qu'ils nous ont imposés, et d'être au travail le reste du temps, ce qui, en général, les personnes qui sont au bracelet et qui ont un travail à côté... du coup, je crois, une heure ou deux le samedi pour pouvoir sortir faire leurs courses, et c'est à peu près
le
tout.
Dimanche.
La prison.
Voilà, le dimanche.
Alors, juste une précision, c'est pas la prison que se fait la pose de bracelet, c'est au SPIP, chez le SPIP.
Ouais, du coup, voilà, des fois c'est dans l'enceinte de la prison ou à côté, mais voilà. En tout cas, le SPIP dépend de toute façon de l'administration pénitentiaire. On va donner des nouvelles de Fabrice Borromée, dont on a parlé au mois de novembre. Donc Fabrice, je rappelle, c'est quelqu'un qui a été condamné une première fois à une peine de 8 ans, c'était en Guadeloupe, il a été transféré depuis en métropole, avec interdiction de séjour en Guadeloupe, et sur cette peine de 8 ans se sont ajoutées d'autres peines à l'intérieur, parce qu'il n'entend pas se laisser soumettre et humilier, et c'est pourtant le cas, puisque il subit notamment la violence de l'isolement, mais aussi la violence raciste de la part des surveillants. Et donc Fabrice, en septembre, avait pris en otage un sous-directeur à la maison de Vendin-le-Vieil, qui est une prison ultra-sécuritaire qui a été construite tout récemment. Et donc il avait pris une première peine en première instance de 8 ans pour ce fait, donc ce qui fait que sa peine au total s'élevait à 36 années de prison. Si donc ce réquisitoire est confirmé, et il a fait appel, il est passé en appel, c'était il y a quelques jours.
Ouais, la semaine dernière.
Voilà, la semaine dernière, le juge lui a demandé notamment pourquoi il avait choisi de faire appel, et Fabrice a répondu parce qu'il estime qu'il avait eu raison de faire ça. Et donc voilà, ça c'était quoi? C'était l'occasion, à l'occasion de ce qu'on appelle en termes judiciaires une séquestration. C'est-à-dire, il est resté pendant 2 heures avec ce sous-directeur. Sous la main, pour prendre la parole, en fait, pour dénoncer sa situation, celle d'un prisonnier qui, d'une part, a envie de rentrer en Guadeloupe, d'être transféré là-bas, de finir sa peine là-bas, et puis d'autre part, qui dénonce justement ces rallonges de peine à répétition dès qu'on est à l'intérieur et qu'on essaye de se faire entendre. Alors, il explique les raisons de son geste de cette manière-là. Il dit qu'il s'était tenu à carreau à l'isolement, donc dans cette prison qui est déjà en elle-même un peu un dispositif d'isolement, puis c'est une prison ultra sécuritaire, Donc il était à l'isolement total à l'intérieur de cette prison en septembre. On lui avait dit qu'il sortirait fin septembre de cet isolement total, et finalement on a prolongé l'isolement total jusqu'au mois de novembre. Et comme pour lui il explique qu'une parole vaut un homme, et ben c'était le seul moyen donc de prendre entre guillemets en otage ce sous-directeur, de se faire entendre. Et voilà, Fabrice, donc à l'occasion de cet appel, a rappelé au juge que le juge, monsieur, vous êtes sur votre chaise, mais vous ne connaissez rien à la réalité de la prison. Il a aussi dit que si les surveillants continuent notamment à le réveiller toutes les heures, eh bien, il y a des chances qu'il se retrouve à nouveau devant le tribunal. Voilà, donc pour Fabrice qui lâche pas l'affaire. Fabrice, donc le procureur a demandé à nouveau une peine de 8 ans pour ce procès en appel. Et on attend le délibéré pour le 11 février, je crois, il me semble. Voilà, en espérant que bah, ce sera un peu moins de 8 ans. Mais malheureusement, on sait déjà que la peine sera trop lourde et que Fabrice aura bien plus de 30 ans de prison à faire. Et on lui souhaite tout notre courage pour continuer son combat. Et on va faire notre possible pour relayer au maximum sa parole. Et celle de tous les prisonniers qui ne comptent pas se laisser humilier comme ça. Et notamment celle de Christine qui, elle, enchaîne encore les procès. Donc je vais faire un petit mea culpa parce que la dernière fois, je me suis un peu trompé, même complètement. Parce que j'ai dit qu'elle était en prison depuis 2 ans. Or, elle est en prison depuis novembre 2012, ce qui fait donc plus de 3 ans désormais. Et voilà, donc Christine qui est en prison, on le rappelle, pour s'être embrouillée avec les matons au parloir alors qu'elle allait visiter quelqu'un. Et qui, suite à ça, voilà, enchaîne les peines à l'intérieur.
Par exemple, là, en novembre dernier, à Ivry, elle est passée. Enfin, il y a eu lieu un procès pour violence sur maton, sur 4 matons. Et du coup, le verdict a donné un enferme à Christine. Du coup, on a ouï dire qu'il y avait un procès début février.
Voilà, du coup, qui concernerait des événements un peu plus récents, du coup, qui sont passés à Orléans depuis qu'elle est transférée à Orléans, ce qui fait donc quelques mois. Et voilà, sinon, on n'en sait pas beaucoup plus sur ce procès-là, mais par contre, il y a un autre procès qui, lui, du coup, devait avoir lieu il y a un moment et qui a été reporté.
C'était en novembre dernier, et du coup, là, il a été reporté au 15 mars au tribunal de Poitiers à 14h. Donc, il y a un appel à rassemblement pour ce procès, du coup, qui a été reporté parce que, ça faisait état de 6 faits au lieu de 11 qui étaient cités par la juge, et le procureur, n'acceptant pas que ces 6 faits passent à la trappe du jugement, Christine et sa défense ont opté pour le renvoi. Donc ça sera le 15 mars 2016 au tribunal de Poitiers à 14h.
Et donc c'est encore une fois pour...
pour violence, c'est voilà, violence,
ça,
outrage,
c'est le chef d'inculpation, c'est sans doute parce qu'encore une fois elle a refusé... ce qui est de l'ordre du quotidien pour la plupart des prisonniers, mais qui reste illégal, c'est-à-dire les palpations systématiques, les fouilles systématiques. Elle dénonce notamment la situation dans les quartiers disciplinaires, les quartiers d'isolement des prisons où elle se trouve. Et donc, voilà, l'administration pénitentiaire entend bien ne pas la laisser gagner et faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible à l'intérieur.
Et pour des nouvelles un peu fraîches, c'est que depuis janvier, là, Christine, elle est sortie du militaire et elle a été renvoyée. Là, pour l'instant, elle est en isolement encore.
Voilà, elle est à nouveau en isolement, donc à nouveau sans possibilité de contact avec les autres prisonnières.
Du coup, il y a une adresse où vous pouvez notamment avoir des nouvelles de Christine. Donc, c'est christinecontact@riseup.net. Ou alors, vous pouvez aussi taper Pisser dans l'herbe. Je pense que c'est le premier sur Google que vous trouverez.
C'est sur nos blogs. Enfin, pisserdanslherbe.noblog.org. Il y a les liens aussi sur le site de l'émission Passe-Muraille. Et vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore écouté, écouter du coup l'émission où on parle de Christine et où elle-même raconte son parcours.
Et donc, je vais aussi vous dire son adresse, parce qu'on peut lui écrire à Christine. Du coup, c'est Ribali, R-I-B-A-I-2-L-Y, Christine, centre pénitentiaire de Orléans-Saran, RD-702, Les Montaubans, 40-24 ancienne route de Chartres, 45 770, Saran.
Et voilà, du coup, on va tout de suite parler un peu de quelques brèves d'actu dont on a envie de parler, et notamment l'histoire d'Ocine Bourras qui, à l'âge de 23 ans, c'était en août 2014, il a été tué par un gendarme pendant son transfert alors qu'il était menotté donc dans le véhicule de transfert. Et mardi dernier, les juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu au motif de la légitime défense. Donc voilà, une fois de plus, si vous suivez un peu l'actualité, vous saurez que c'est un peu le même genre de rendu qui a été donné dans le procès du policier qui a tué Amine Bentoussi d'une balle dans le dos. Voilà, une fois de plus, flic, gendarme ou maton assassine et la justice acquitte. Et voilà, juste pour quand même dire que tout n'est pas perdu. En tout cas, la famille compte continuer son combat et bien faire entendre justice, en tout cas certainement pas celle qui vient d'être rendue. Et donc elle a annoncé qu'elle allait faire appel et qu'elle continuerait son combat pour dénoncer les violences de l'État. Voilà donc pour l'histoire d'Austin, et puis ça nous amène à une petite brève qui répond un peu.
Ouais, un truc qui s'est passé à la mi-décembre, en fait, de la nuit du samedi au dimanche 13 décembre. Et c'est un peu pour inverser la violence, en fait, où on s'est retrouvé devant la maison, dans l'enceinte de la maison d'arrêt du Val d'Oise. Et c'est un incendie qui s'est passé avec. Pour dégâts, 8 fourgons cellulaires, des fourgons cellulaires donc des transports de détenus, qui se sont retrouvés entièrement détruits, le parking endommagé et certains fourgons partiellement brûlés, en tout cas tous inutilisables. Et voilà, ça nous a fait un peu rire.
Ouais. Moi, j'avais juste pour enchaîner vite fait, je suis tombée sur les journaux là, quotidiens qu'on retrouve dans les métros un peu pourris. Et du coup, il y avait un article justement qui parle du Val d'Oise, de la maison d'arrêt d'Osny et aussi du centre pénitentiaire de Lille Annelin, donc dans le Nord. Et ces prisons-là ont la fierté d'ouvrir deux unités dédiées à la prise en charge de détenus en voie de radicalisation.
Et on va en parler un petit peu plus tard.
Pardon.
Du coup, en fait, là, l'idée, c'était de parler aussi d'un truc qui nous fait un peu plaisir. C'est une réaction à l'arbitrage de la pénitentiaire qui a lieu du côté de la Corse. En fait, d'abord, ça se passe à Fleury-Mérogis. Le 11 janvier, aux côtés d'une centaine d'autres prisonniers, il y a donc deux prisonniers corses, Cédric Courbet et Xavier Tchekaldi, qui ont participé à une action de blocage des promenades. Et bien qu'ils n'étaient pas spécialement à l'initiative de ce mouvement-là, voire pas du tout, ces deux prisonniers ont été désignés comme boucs émissaires par l'administration pénitentiaire qui les a envoyés au mitard pour 20 jours. Alors il faut savoir qu'ils étaient en préventive dans le cadre d'une mise en examen, encore une fois, pour antiterrorisme en lien avec donc leur militantisme pour l'indépendance de la Corse. Donc la paix les envoyait au mitard pour 20 jours et en réaction à ça, il y a des prisonniers en Corse et notamment et surtout des prisonniers de droit commun qui ont voulu se solidariser avec ce qui se passait et qui ont entamé un mouvement de refus de plateau. Il y a également une douzaine de prisonniers politiques corses qui se sont mis en grève de la faim, notamment à Fleury-Mérogis, mais aussi à Osny, à Villepinte et donc à la maison d'arrêt de Borgu en Corse. Et voilà, il y a aussi une solidarité qui est affirmée donc par les prisonniers de Corse avec Nicolas Battini, qui lui a été envoyé le 14 janvier au mitard de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy pour avoir refusé de réintégrer sa cellule. Il s'agissait pour lui, par cette action, de dénoncer l'impossibilité d'étudier dans de bonnes conditions en prison. Et toujours en lien avec ces histoires de placement en quartier disciplinaire, il y a eu aussi des manifestations de lycéens jeudi dernier et des manifestations de familles et de soutien des prisonniers en Corse, donc ce samedi. Voilà pour ce qui se passe d'actualité. Et puis on espère que si vous écoutez ça, ça vous donnera envie de vous solidariser avec les prisonniers en lutte et pas seulement les Corses, bien évidemment. Et voilà. Et puis, on va parler un peu de ces unités de radicalisation donc, qui ouvrent
ce jour même. Des infos bien précises. Donc, on avait commencé à en parler, mais c'est ça, en fait. Lundi a été lancé le programme de déradicalisation dans les prisons. Donc, il y a deux nouveaux quartiers spécifiques qui sont ouverts dans les établissements pénitentiaires d'Osny et de Lille, dans le Nord. Il y en aura encore deux autres à la fin du mois à Fleury-Mérogis. Et c'est la prison de Fresnes où il existe un quartier dédié depuis 2014 qui sert de modèle. On nous précise dans la brève que son fonctionnement est en cours d'évolution et que donc fin mars, la France comptera 5 unités avec une vingtaine de personnes condamnées ou en détention provisoire dans des dossiers de terrorisme.
Et du coup, pour expliquer un peu c'est quoi le principe, en gros, c'est donc ils sont évidemment mis entre eux et isolés du reste de la population carcérale. Et ils ont des matons, des agents, des SPIP, là, des agents d'insertion et de probation, et des intervenants qui sont spécifiquement sélectionnés pour ce type de prisonniers, et donc pour travailler à ce qu'ils appellent cette déradicalisation. Et du coup, ça nous amenait à une réflexion qu'on avait envie de partager.
C'est ça, une prise de position en fait, de Mourad Benchelali, qui est un ancien détenu à Guantanamo, et qui dit ceci: la radicalisation, c'est comme si c'était la maladie d'Ebola, une maladie toxique qu'on attraperait à proximité de personnes contaminées. Et donc, on la traite par l'isolement. On met les personnes qu'on estime touchées entre elles et on perd toute approche humaine de la question. On ne combat pas des idées par la répression.
Et ouais, on combat pas des idées par la répression, et pourtant la répression est toujours là. Et du coup, bah voilà, pour finir sur ces petites brèves d'actu, moi j'avais une dernière brève qui est un peu, qui va faire écho un peu au parcours de la personne dont on va parler plus longuement dans cette émission, puisque là il s'agit de trois personnes qui sont en cavale depuis plus de 25 ans, trois anciens membres présumés de la RAF, donc la fraction armée rouge, un groupe de lutte armée en Allemagne, qui sont déjà soupçonnés, accusés d'être à l'origine d'une attaque à la bombe contre le centre de détention de Terstadt, excusez-moi pour l'accent allemand, c'était le 27 mars 1993 et donc ils sont à nouveau soupçonnés d'un nouveau fait. Cette fois-ci, c'était une tentative d'attaque d'un fourgon blindé, et donc en 2015, tout récemment. Donc ils ont, ces trois personnes qui sont recherchées ont des âges de 57-58 ans. Et voilà, bah, ce que ça m'évoque, moi, c'est que effectivement, il y a des gens qui, après des années de cavale, lâchent pas l'affaire et comptent pas se rendre, qu'elles ont besoin de finances, et que ça explique sans doute cette tentative de se réapproprier une part du butin des banques, etc. Et voilà, et donc une pensée bah, pour tous ceux qui sont en cavale et qui s'affrontent au dur choix de la clandestinité. Et du coup, ça me donnait envie de vous conseiller un livre, si jamais vous avez l'occasion de le croiser, un livre qui est sorti en français aux éditions Nux Vomica Mutins Edition, qui s'appelle Incognito, expérience qui défie l'identification, qui je crois est sorti aussi en italien, puisque ce sont des textes italiens qui ont été rassemblés à la base et traduits de l'italien, et voilà, qui donc avec des parcours assez divers et variés de clandestinité, voilà, donne la parole sur cette question qui est, à mon sens, mûrement à réfléchir, notamment pour tous ceux qui sont en prison, qui envisageraient de s'évader ou de profiter d'une permission pour pas revenir. Trop nombreux sont ceux qui se font serrer alors qu'ils sont en cavale. Et voilà, et bah, pour dire donc que comme ces trois personnes de la RAF qui ne sont toujours pas entre les mains de la police, c'est possible de survivre en cavale, et ce pendant des années. Ça a été aussi un peu le parcours de Claudio, dont on va parler plus longuement dans cette émission, mais peut-être on fait une petite pause musicale avant.
Et on s'écoute les Ramones.
C'est Olé. Parti. We'll be right back.
parti sur Radio Galère avec l'émission Passe Muraille. On va vous parler maintenant de, on va vous parler maintenant du parcours et puis aussi surtout essayer de vous faire comprendre un peu les opinions, les envies, les idées de quelqu'un qui s'appelle Claudio Lavazza, qui est un Italien. Et pour ça, on a quelqu'un ici qui peut nous parler un peu de cette personne-là.
Salut.
Salut.
Alors,
est-ce que tu peux nous raconter un peu déjà le parcours de Claudio?
Oui. Allora, voglio ringraziare qui i compagni e le compagne di Casse Muraille.
Donc il tenait à remercier les gens de Passe Muraille
per aver organizzato questo momento qui sulla conoscenza di Claudio, il suo percorso.
Pour avoir organisé ce moment de partage par rapport au parcours de Claudio.
E niente, allora inizio a parlare di Claudio, un po' della sua vita, la sua formazione politica, fino ecco un po' ai giorni d'oggi.
Donc il commence à parler du parcours de vie de Claudio, de sa biographie jusqu'à aujourd'hui.
Allora, Claudio nasce in provincia di Milano, nella metà degli anni 50, da una famiglia operaia.
Donc il est né dans les années 50 à Milan, d'une famille ouvrière.
Dopo uno dei tanti avvenimenti d'inizio anni 70, gli anni 70, nello specifico la strage, la cosiddetta strage di Piazza Fontana, ovvero un attentato in una banca organizzato dagli apparati dello Stato.
Et tout de suite après, ce qui était un moment historique important, qui était le soi-disant massacre de Place Fontana à Milan, et, c'est-à-dire un massacre d'État.
Oui, attribuito agli anarchici.
Qui a été attribué ensuite au mouvement anarchique.
Così, un po' per buttare discredito su un certo tipo di sinistra che in quegli anni sembrava prendere piede a livello sociale e politico.
Che in fait ha été attribué au mouvement de militants justement pour jeter discréditer ce mouvement même.
E dunque, dopo questo evento, diciamo, prende l'idea di contribuire a quello che era quello che è chiamata la lotta armata in Italia.
C'est après cet événement là qu'il décide de prendre parti a ce qui était appelé la lutte armée en Italie.
In quel periodo oltre 100 formazioni armate portavano avanti una guerriglia in Italia sotto varie sigle, con vari obiettivi, comunque è così, circa un centinaio più o meno.
À ce moment-là, plus qu'une centaine de petits collectifs se jetaient dans une guérilla pour avancer cette lutte armée.
Nel 1979, c'è il suo primo arresto.
Il vient arrêté la première fois en 79.
Gli venne fatta una perquisizione nel suo domicilio con esito negativo. Dopo questa perquisizione andò in un appartamento che era un po' il punto di ritrovo del suo gruppo e lì venne arrestato.
Il est arrêté la première fois du coup en 79 et ensuite après une persécution domiciliaire qui a une perquisition domiciliaire qui a une issue négative. Il est regné en liberté.
In questo appartamento trovarono numerose armi, tra cui un mitragliatore Kalashnikov. E venne accusato di far parte di una formazione armata chiamata PAC, che era Proletari Armati per il Comunismo.
In questo appartamento ils ont été trouvé plusieurs armes et dont un Kalashnikov. Mm-hmm. Et il a été accusé de faire partie d'être membre des PAC,
qui c'est les prolétaires armés pour le communisme.
Ouais.
Et quindi venne accusato di tutti i reati attribuiti al gruppo.
il est accusé d'être de tous les délits qui sont attribués à ce groupe.
E inoltre a rapine, attentati e l'omicidio di un giudice.
E aussi aux attentats et à la mort d'un juge.
Nonostante i capi di imputazione, le accuse pesanti, per insufficienza di prove viene liberato, scarcerato a piede libero, diciamo, in libertà provvisoria.
Donc malgré toutes ces accusations, il est remis en liberté.
Una volta libero, comunque decide di passare in clandestinità per vari motivi suoi, e comunque affronta le difficoltà che una certa scelta possono comportare. In quel periodo soltanto il fatto di ospitare un latitante, un clandestino che aveva scelto il percorso della lotta armata, comportava l'accusa di far parte di quell'organizzazione armata.
Donc une fois remis en liberté, il a choisi en tout cas le parcours de la clandestinité. Et bon, il faut remarquer que en ce moment, c'est-à-dire les années 80 en Italie, déjà le fait d'héberger un militant clandestin, c'était un acte qui était censé pouvoir amener des grosses conséquences, comme celle d'être accusé de faire partie à une bande armée.
Niente, nonostante la possibilità sua di partecipare ad altre formazioni comuniste armate, rifiutò in virtù del suo sentire anti-autoritario anarchico.
Il refuse de faire partie à d'autres
groupes
qui lui avaient proposé de prendre partie.
Pendant qu'il était en clandestinité.
Pendant sa clandestinité, du coup, il a arrêté de faire partie de groupes de lutte armée communiste et il est devenu anarchiste.
Ouais,
et de l'Italie, il est passé en France, en Espagne aussi, c'est ça?
Oui, après.
Ça, c'est après.
D'accord.
Okay. Il disait juste en fait qu'il lui avait proposé de prendre partie à d'autres groupes armés, mais que c'est à ce moment-là qu'il développe une idéologie anarchiste pour laquelle il ne peut pas prendre partie à ces autres mouvements.
Rispetto al gruppo di cui è stato accusato di far parte, PAC, volevo aprire una parentesi.
Donc là, on ouvre juste une petite parenthèse par rapport à ce groupe dont on a parlé auparavant, les PAC, les prolétaires armés pour le communisme.
Allora, nel 1977, davanti all'emergenza delle carceri speciali create apposta per arginare, smantellare, annientare i detenuti, i prigionieri delle formazioni armate.
Donc à la fin du 77, par rapport à la réalité des prisons spéciales qui naissaient dans le but de tuer les prisonniers en galère, en prison.
Niente, si crea questo dibattito per fronteggiare questa nuova manovra scellerata dello Stato. Discussione che si sviluppa soprattutto su un giornale che si chiama Senza Galere.
Il commence un débat surtout dans un journal qui s'appelle Senza Galere, Sans Prison. Un giornale da controinformazione.
Che ne usciranno tre numeri tra il 77 e il 1978.
Il y a trois numéros qui sortent entre le 77 e il 78.
E quindi ecco, all'interno di questa discussione si creano i PAC, i proletari armati per il comunismo.
C'est dans cette discussion qui naissent les PAC, les prolétaires armés pour le communisme.
All'inizio questa organizzazione si preoccupa di espropriare armi e soldi. Dopo si possono ricordare delle piccole azioni in appoggio delle rivendicazioni operaie, di lotte operaie.
Donc au début, les actions de cet organisme, il s'agit surtout d'exploitation d'armes, de sous. Ensuite, il s'agit de petites actions qui veulent donner de soutien aux luttes ouvrières de ce moment historique.
Et tra queste, boh, non so se è il caso di ricordare, comunque... I PAC l'8 maggio 1978 feriscono il medico dell'INAM, che è un ente del lavoro, Diego Fava, si chiamava.
Donc entre ces actions de ce petit groupe, il y en a une le 8 mai de 1978. Il s'agit en gros ça touche le médecin de l'INAM, Diego Fava.
C'est quoi l'INAM?
Un ente del medico del lavoro, come si può dire, non so,
medicina
qui,
du travail.
Dei sabotaggi agli stabilimenti automobilistici dell'Alfa Romeo.
Dei sabotaggi degli stabilimenti dell'Alfa Romeo.
Ma fondamentalmente gli obiettivi dei PAC erano legati al tessuto carcerario.
Mais les objectifs les plus importants des PAC, c'était toutes les structures carcérales.
Et qui, comunque, era palesemente un collaboratore delle forze dell'ordine, della repressione.
Et tous ceux qui étaient jugés collaborer avec les forces de l'ordre.
Ok, in questa diciamo fase dei PAC andrebbe ricordato il ferimento di Giorgio Rossanigo, che era il medico del carcere di Novada.
In questa prima fase il faudrait parler du médecin della prison de Novara, Giorgio Rossanigo.
Un altro agente del carcere di Verona.
E d'un altro agente della prison de Verona.
L'omicidio il 6 giugno 1978 del maresciallo del carcere di Udine.
Le meurtre le 6 juin du 1978 du adjutant della prison de Udine.
Nell'altro versante dei PAC andrebbero ricordati due omicidi di due commercianti, un macellaio e un gioielliere, che avevano risposto al fuoco durante un tentativo di rapina da parte dei proletari, uccidendo in tutti e due i casi, sia nella gioielleria che nella macelleria, questi rapinatori.
Per ciò che concerne le altre azioni de PAC, a essere visé, ils ont été surtout un boucher et un autre commerçant que dans deux vols, ils avaient tiré sur des voleurs et qui avaient tué les deux.
Quindi ecco, questi due commercianti vengono uccisi dai PAC.
Ces deux commerçants sont donc tués par le PAC.
In seguito a questo duplice omicidio,
e tout de suite après ce double omicidio,
ci furono vari arresti tra le file dell'organizzazione.
Il y a eu beaucoup d'arrestations all'intérieur du parc.
Questi compagni vennero così arrestati, duramente torturati, eccetera.
Et les camarades ont été durement torturés et arrêtés.
Comme risposta ai PAC a questi arresti, uccidono a Milano il 19 aprile 79 l'agente della polizia politica, Andrea Campagna.
La réponse des PAC, ça a été de tuer l'agent Andrea Campagna le 19 avril du 1979.
Questa è... Sembra che sia l'ultima azione dei proletari armati per il comunismo.
E ce qui pare essere la dernière action dei proletari armati per il comunismo.
Dopo lo smantellamento dei PAC, chi ancora era libero confluì in un'altra formazione, in altre formazioni, tra cui Prima Linea, altri crearono una formazione che si chiamava Rapinatori Comunisti.
Beh, tout de suite après, c'est, disons, un peu la fin du coup de ce groupe des PAC. Ceux qui sont restés en clandestinité, y en a qui ont commencé à faire partie d'autres groupes, dont par exemple Prima Linea ou Rapinatori Comunisti.
E altri formarono assieme ad altri militanti di altre formazioni i GOLP, che sarebbe la sigla sarebbe Comunisti Organizzati per la Liberazione Proletaria.
Ou d'autres encore ont donné vie à une autre formation qui s'appelait COLP, c'est Communiste Organisé pour la Libération Prolétaire.
Con questa organizzazione, con i GOLP, Claudio nel 1981, tra le varie azioni, assaltò insieme ad altri compagni appunto il carcere di Frosinone, liberando due persone, tra cui un compagno che qui in Francia ben conosciuto, che si chiama Cesare Battisti.
Et c'est avec cette dernière formation, donc les Colp, que Claudio Lavazza, en 1981, a attaqué la prison de Frosinone. Et cette attaque, en fait, a permis la libération d'un camarade.
La libération de deux personnes, c'est ça?
Très, très connu en France, Cesare Battisti.
Dunque, in quel periodo inizia un po' una triste faccenda che è quella dei collaboratori di giustizia, sia tra gli arrestati, sia tra qualcuno che è così a piede libero.
E c'è in questo momento che comincia un po' un momento triste du movimento. Pour tout dû aux gens qui ont commencé à travailler avec la justice tout en étant à l'intérieur du mouvement.
Tanti, compreso Claudio, decidono di lasciare l'Italia e di trasferirsi qui in Francia, che in altre parti. Comunque Claudio si trasferì qui in Francia per un periodo della sua vita.
E c'è per cela aussi che beaucoup entre eux prennent le choix de quitter l'Italie et d'aller en France, comme Claudio a fait.
In Francia gli venne richiesto un po' di regolarizzare la sua situazione in virtù anche della protezione che lo Stato francese garantiva ai fuoriusciti politici in quel periodo.
La France in ce moment était disponible à accueillir ces gens m'ont demandé qu'ils régularisent leur position et Claudio aussi a reçu cette proposition de la France.
Tanti avevano accettato questa proposta da parte dello Stato francese, ma Claudio rifiuta e preferisce, coerente al suo ideale di non... scegliendo la linea del non dialogo con lo Stato, qualsiasi esso sia.
Si beaucoup décide d'accepter cette proposition qui venait de l'État français, Claudio refuse de faire ce compromis pour rester sur sa position de jamais se compromettere avec n'importe quelle struttura étatique.
Venne anche chiamato in causa rispetto a un dibattito che sempre in quegli anni si era creato intorno a una scelta che era quella della dissociazione da parte dei detenuti, quindi dissociarsi dal percorso armato, che avrebbe portato degli sgravi di pena, comunque delle migliori condizioni di carcerazione, eccetera.
Il prend parti tout de même à un débat interne en Italie et qui concernait l'utilité ou pas des armes. Et pour lui, la non-disponibilité ni partage de ce processus de dissociation. Et c'est pour cela qu'il était appelé irréductible.
Ok, andiamo un po' avanti. Venne fermato in seguito dai doganieri svizzeri in uno dei suoi viaggi e aveva addosso un bel po' di soldi, circa, quindi 22 miliardi di lire, fatto un po' il cambio, sono 88 milioni di franchi.
Donc,
en euro.
Peu après être rentré en France, il a été arrêté par des douaniers en Suisse. Et il a été relâché peu après. Et il s'agissait d'un 22 milliards. Ça serait combien?
88 milliards de francs.
88 millions de francs. Ça serait combien un euro?
Je sais pas.
Tanti.
Beaucoup d'argent.
Questi soldi risultarono poi il provento di una rapina, risultarono rubati nel cavo di una sede della Banca di Francia.
Et en fait, ces 22 milliards, ils venaient d'un vol d'un caveau dans une banque française.
À la Banque de France, c'est ça.
Dopo di ciò si trasferì in Spagna e continuò comunque la sua attività di rapinatore.
Tout de suite après, donc, il décide de partir en Espagne où il continuait son travail de voleur.
In Spagna, soltanto in Spagna, accusato di aver rapinato 7 banche.
E seulement in Spagna il était accusé d'avoir volé dans 7 banques.
Fino ad arrivare all'ultima rapina al Banco di Cordoba nel 1996, dove lui e altri tre compagni vengono arrestati dopo una sparatoria che comportò il ferimento di questi compagni e l'uccisione di qualche guardia che erano intervenute, che erano state chiamate per appunto allarmate per la rapina.
Donc il était accusé d'avoir volé dans cette banque et que seulement dans la dernière, dans celle de Cordoba, il y a eu des morts.
Et ouais, du coup... Donc en fait,
il a eu... après ce braquage à Cordoba, il est rentré en prison en Espagne, c'est bien ça?
Sì.
Dopo questa... è rientrato in Spagna.
È rientrato in Spagna, chiaramente sì, viene arrestato, niente, viene subito messo nel regime FIES. Quindi...
Donc il a été arrêté tout de suite après... cet événement et il rentre dans les régimes FIES.
Et si j'ai bien compris, il est encore en Espagne, en prison maintenant.
Il est encore en Espagne, en 1996.
Et depuis 1996, il est en Espagne, sous le régime FIES.
Et du coup, peut-être on peut écouter un premier extrait de la parole de Claudio et puis ensuite on reviendra sur son parcours en prison et notamment sur le régime FIES.
Ouais, juste avant de passer l'extrait, en fait, c'est la voix de Claudio qu'on va entendre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment on a eu cet enregistrement?
Prima di ascoltare questo estratto, volevamo soltanto sapere come siamo arrivati ad avere questa registrazione.
Sì. Allora, Claudio nel 2006 conclude la sua autobiografia, che scrive in spagnolo.
Donc en 2006, Claudio il écrit cette autobiographie en espagnol.
Nel 2010, questo suo libro esce a Madrid.
Et ce livre il est sorti en 2010 à Madrid.
Insieme ad altri compagni abbiamo curato l'edizione italiana.
L'edizione italiana était, enfin c'est, donc c'est Alessandro si présent avec d'autres camarades qui
E niente, quando uscì l'edizione italiana abbiamo approfittato di un colloquio telefonico che è stato concesso ed è stata fatta questa intervista.
Donc au moment della sortie italienne ils ont pu avoir un entretien téléphonique avec Claudio.
Ok, bah on du peut coup, écouter voilà, premier extrait de cet entretien.